Bonjour, bonsoir, bienvenue à Voix de Fée, l'émission du collectif Anarchiste la nuit sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Vous êtes en compagnie de Nicolas.
De Guillaume.
Excusez.
Yeah, Farouko aussi.
D'accord, cette semaine on a une émission relativement chargée. Un retour sur l'actualité sociale, politique, économique. On va parler de manifestations contre... de manifestations... le mouvement de lutte à la pauvreté, disons-le comme ça.
Ensuite, on va parler un peu de profilage racial, encore une fois, à Montréal. Ensuite, quelques nouvelles là, sur la haute finance et le crédit et tout ça.
Toi, t'as jamais de bonnes nouvelles.
Je sais, j'ai de la misère à trouver ça, les bonnes nouvelles, mais en tout cas. Pas...
Ouais, oui, c'est la même affaire. On va parler notamment du jour plus fort des banques alimentaires. On va passer vous parler aussi de la peine de mort pour certains opposants au régime iranien. Et en parlant de peine de mort, ça pourrait être réintroduit en Russie. Puis aussi, il y a un antifasciste qui a été tué dernièrement en Russie par un Moudazi.
Et pour la deuxième semaine de suite, on va avoir un volet culturel relativement important.
Yeah.
Parce qu'on a une entrevue, cette fois-ci, avec Norman Naroki, qui est beaucoup de choses. Norman, c'est un musicien, un compositeur, interprète, un auteur, un acteur, un producteur, un vétéran de la scène underground montréalaise. En fait, il est connu internationalement comme artiste de cabaret, comme violoncelliste et participant à plusieurs formations, dont les plus connues au niveau militant sont sans doute Rhythm Activism, mais aussi Dazak, Bakunin's Band, The Flaming Pierogies, The Montreal Manhattan Project. Et de plus en plus, il est reconnu comme...
Hein? Bakunin's Bomb?
Oui, Bomb. Bomb okay, comme dans les bombes.
OK.
Bombs. Pas bombs.
C'est bizarre, ça.
il est de plus en plus reconnu. Bon, il est reconnu comme musicien, il est connu pour ça, mais de plus en plus reconnu aussi comme poète et auteur, en fait, parce qu'il y a de ses livres qui sont publiés, dont certains sont même traduits en français, ce qui est relativement rare dans la vie, des livres traduits. Et il est à Québec, en fait, pour parler d'art et d'anarchie, et aussi pour sa pièce, une présentation de Casarola. On va l'avoir en entrevue dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour vous mettre en bouche, on va présenter Why Am I an Anarchist, qui est une des pièces... une des belles pièces des dernières années de Norman, qui tient à la fois du spoken word et de la chanson.
Il travaille dur.
Thank you.
as they build prisons, but close hospitals and schools. Because neither the sun, the moon, nor the stars are for sale. Because corporate greed destroys lakes, rivers, forests. Because I'm not afraid to dream. Because I refuse to remain silent.
Norman Rocky sur les ondes de Sequoia 88.3, on va l'avoir en entrevue un peu plus tard en émission dans la deuxième demi-heure vraisemblablement. Alors, vous êtes toujours à Québec sur les ondes 88.3 à voix de fait et ça va être le bloc d'actualité, mettons des mouvements sociaux. Il y a les groupes de lutte à la pauvreté en fait, les manifestations qui se sont succédées cette semaine. Mettons que c'est un front qui s'est ouvert et qui s'est réchauffé un peu dans les derniers temps, c'est normal. Dans la mesure où actuellement le gouvernement est en consultation sur le deuxième plan de lutte à la pauvreté et les organisations de personnalités sociales sont vraiment pas contentes du deuxième plan de lutte à la pauvreté dans la mesure où on fait reposer, aux surprises, l'essentiel de l'effort sur les épaules des personnes finalement et aussi l'essentiel du problème. Donc lundi dernier, le cirque des consultations du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale était dans Chaudière-Appalaches. Comme à chaque fois, il y avait un rassemblement de protestation. Dans ce cas-là, d'environ 75 personnes du milieu communautaire, les regroupements là, régionaux de groupes de femmes, de groupes anti-pauvreté, d'éducation populaire. Donc, 75 personnes qui se sont mobilisées contre les consultations bidons sur le plan de la pauvreté de Sam-Abad. Ça n'a pas l'air de grand monde, mais dites-vous que c'est exceptionnel dans une région semi-rurale comme Chaudière-Appalaches d'avoir une manifestation du communautaire, premièrement, encore plus dans un village comme Scott, parce qu'il faut le dire, là, c'est un village, et c'était dans le bois, finalement. C'est comme ça, une espèce de truc de produit du terroir, la cache à Maxime avec un vignoble où
à il y avait Maxime, finalement ses consultations.
Je sais pas, non, je pense pas. Il y avait ces consultations-là et puis donc cette manifestation-là. Voix de fait, y était et donc voici brièvement là, ce qu'on en a ramené. Anne-Valérie du regroupement d'éducation populaire en action communautaire de Québec, Chaudière-Appalaches, qui s'adressait à la foule tumultueuse, qui finalement a décidé d'aller porter les revendications directement dans les consultations, malgré l'interdiction formelle d'entrer sur le stationnement privé de la Cache à Maxime. Québec va être vraisemblablement le dernier arrêt des consultations sur le deuxième plan de lutte à la pauvreté. Les regroupements régionaux prévoient une manifestation le 11 décembre. On va avoir l'occasion de s'en reparler.
Arrêtez de nous diviser.
C'est assez les préjugés. Arrêtez de nous diviser.
Ensemble, nous luttons.
Alors, mercredi, c'est au tour. C'était au tour des militants du Front commun des personnalités sociales. On a entendu là, les calluses de slogans de Rose du Nord qu'on reconnaît invariablement dans les manifestations du Front commun qui manifestaient à Québec devant l'Assemblée nationale. Peut-être. Bon, cette fois-là, j'avoue que j'ai pas fait de décompte, là, mais il devait y avoir au moins une centaine de personnes devant l'Assemblée nationale, peut-être un peu plus, qui sont venus déposer une pétition pour l'abolition de la division entre aptes et inaptes au travail à l'aide sociale. Alors, c'est des catégories qui font en sorte de diviser les personnes et qui se traduisent bien concrètement par des chèques qui sont pas du même ordre. C'est-à-dire que les personnes inaptes au travail ont un chèque qui couvre à peine les besoins essentiels et les personnes aptes au travail ont un chèque qui ne couvre pas les besoins essentiels. Donc, il ne permet pas d'arriver. On va écouter Stephen Ouellet, porte-parole de l'Association Défense des droits sociaux de la Rive-Sud.
Au Québec, nous disent que les gens à l'aide sociale, aptes à l'emploi, ne méritent pas de vivre dans dignité. Ça fait longtemps qu'on met des étiquettes sur les personnes qui ont des contraintes à l'emploi. On n'en peut plus! Ouais! Aujourd'hui, ici, on est là pour démontrer notre solidarité. 312 appuis recueillis dans le cadre de la campagne venant de toutes les régions du Québec, des regroupements nationaux, régionaux et des organismes locaux. On a plus que doublé, ou presque doublé, notre objectif. Notre objectif qui était de 5000 signatures. Nous en avons 9465 aujourd'hui. De division qui nous ont animés parce que c'est tout un défi qu'on s'est donné au Front commun cette année, de mettre ça sur la table puis de dire qu'on en avait marre des catégories. Il était temps de créer des solidarités. C'est ça notre force, d'être unis ici aujourd'hui. Pendant qu'on est là pour donner un message, il y a des gens à l'intérieur. Ce matin, à 10h15, c'était le dépôt de notre pétition. Oui! Alors, il y a une délégation qui va venir nous rejoindre dans le cadre de la manifestation. C'est grâce à Amir Kadir de Québec solidaire que le dépôt se fait aujourd'hui, mais il y a également Monique Richard du Parti québécois.
Alors, je vous prie de noter la différence notable d'enthousiasme entre... On a réussi à récolter 300 quelques signatures d'organismes et 9000 personnes, et on a eu l'aide d'Amir Kadir et de la députée du Parti québécois pour déposer notre pétition. Ah, cool! Donc, en tout cas, toujours est-il qu'il y a plusieurs groupes qui ont appuyé les la revendication du Fonds commun des personnes à cité sociale. Steven le notait, là, 300... Mon Dieu, j'ai déjà oublié, 320. Certains de ces groupes-là, en fait, des regroupements nationaux, ont pris la parole, dont Alexa Conradi, la nouvelle présidente de la Fédération des femmes du Québec, et puis, ben, c'est la seule que j'ai réussi à enregistrer au complet. Donc, on va l'écouter.
Il y a eu une époque très noire au Québec, sous le règne de Duplessis. On appelait ça la Grande Noirceur. À cette époque-là, on a maintenu des préjugés à l'envers des femmes qui avaient eu des enfants en dehors du lien de mariage. On créait des catégories entre les bonnes mères et les mauvaises mères. Et on donnait des services à celles qui étaient considérées des bonnes mères, mais pas à celles qui étaient considérées des mauvaises mères. Alors, dans le mouvement des femmes, on a une longue tradition de combattre la construction de catégories qui font de la peine, qui font souffrir, qui gardent des personnes dans des situations de honte et d'indignité. Alors, nous sommes avec vous pour réclamer la fin des catégories, parce que c'est honteux, honteux de maintenir des personnes à l'aide sociale dans les catégories. Et M. Sam Ahmad a l'occasion, a le pouvoir, a le devoir et la responsabilité de mettre fin à un système honteux que peut-être dans 5 ans, j'espère même dans 1 an, on pourrait dire, il faisait partie de l'histoire du Québec et que dorénavant, les personnes assistées sociales pourraient marcher la tête haute.
Donc, c'est une manifestation qui avait lieu mercredi midi devant l'Assemblée nationale. Évidemment, qui dit manifestation dit prise de parole, dit petit sketch, dit slogan. Mais que serait une manif du communautaire sans une petite chanson?
Oui, notre colère monte, aujourd'hui c'est trop. On se bat contre les coupures et les libéraux. Oui, notre colère monte, ensemble luttons. Il faut bâtir un monde sans exploitation. Toujours solidaire, assisté social. Luttons contre l'exclusion. À tous les opprimés, oui, à plus de citoyenneté.
Alors voilà, c'était l'hymne des personnes à cité sociale, une chanson qui a été composée pour le Front commun des personnes à cité sociale du Québec il y a, ma foi, plus de 30 ans. Elle a changé beaucoup depuis, parce que bon, maintenant, c'est uni à tous les opprimés. À l'époque, c'était uni à tous les ouvriers. Mais c'est toujours bien de se rappeler les origines de notre mouvement. Donc voilà, on la ressort régulièrement. Surtout quand il y a la chorale de Rose du Nord qui est pas loin, là, ça sort des manifs. C'est un must. Et vous êtes chanceux que je vous ai pas fait entendre l'enregistrement que j'ai fait de ça dans Chaudière-Appalaches. C'était quelque chose. À Québec, ils sont beaucoup plus habitués de la chanter. Parlant de chansons, On a parlé d'humour, des syndicats en fait qui font de l'humour, des syndicats qui font de l'humour dans le cadre du Front commun. L'autre Front commun, en fait, le Front commun du secteur public, il y a une négociation. Il y a deux semaines, je crois, j'étais revenu avec avec un reportage sur un rassemblement pour le dépôt des revendications, des demandes syndicales du Front commun. Et puis, ben là, c'est ça. Là, le Front commun, on a présenté, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait présenté une capsule humoristique qui avait été produite par le syndicat de la fonction publique du Québec. Oui, la Régie des bâtisses. Et ben là, voilà. Les syndicats dans le secteur public font de l'humour volontaire à certains moments. Ils publient des capsules et ils font des... font un effort, là, ils vont chercher les apartistes et tout. Et des fois, ils font de l'humour involontaire, comme on va l'entendre en fait à l'instant. Le Front commun du secteur public au Québec a commandé une chanson thème pour la négociation. Et moi, je crois qu'il faut ranger ça dans la catégorie de l'humour involontaire. C'est là-dessus que va se terminer ce micro.
Travailler pour aider le monde à avancer, pour épauler, pour enseigner, je fais ma part pour la société.
Mon chum travaille au ministère, puis sa job il l'aime vraiment, mais essayer d'être fonctionnaire quand il y a des coupures tout le temps.
On n'est pas toute seule de notre gang, on est près d'un demi-million, puis là on part en campagne en grande négociation.
We'll be right back.
Bon, après cette jolie chanson du Front commun qui donne sûrement une fierté très profonde à tous les fonctionnaires de l'AIT. Bon, en tout cas, on va maintenant passer à un bloc alimentation. Oui, je suis très, très fier. Merci d'avoir précisé que ça me touchait.
C'est pas une tare, la fonction publique.
Non, j'ai pas dit le contraire.
Sauf bon. Quand on fait des chansons.
C'est ça. Sauf quand ils les font sur notre dos puis qu'ils nous les montraient même pas. Tu sais, je l'aurais pas su si j'avais pas été à votre fête ou si je n'avais pas écouté votre fête ce soir.
Sinon, on a entendu une excellente chanson faite par Los Tres Puntos qui s'appelait « Je dépense, donc je suis ».
Effectivement.
C'était pas mal meilleur.
Oui, en effet. Merci. Fait que, c'est comme je disais, bloc alimentation.
Il y a une demande toujours qui est toujours plus forte pour les banques alimentaires. Si on compare entre mars 2009 et mars 2008, en mars 2009, il y a 794 768 personnes qui ont fait appel à des banques alimentaires au Canada, c'est une hausse de 17,6% auprès de 120 000 personnes par rapport à mars 2008. Puis ça représente la plus forte augmentation sur 12 mois depuis 1997. Puis de ce nombre-là, il y a 72 321 000 qui sollicitaient pour la première fois l'aide d'une banque alimentaire. Puis selon Catherine Schmidt, la directrice générale de Banque alimentaire Canada, bien, les banques alimentaires ont même malheureusement été les premiers témoins des effets des trois récessions en trois décennies. Puis c'est ça, ça a augmenté partout dans toutes les régions du pays, mais les plus hautes sources de fréquentation, c'est en Alberta, où supposément que c'est une terre de riches, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. En Nouvelle-Écosse, c'est un
livre. En fait, c'est que c'est une terre de riches, effectivement. C'est juste que le coût de la vie est tellement élevé que c'est à peu près impossible de. Ben, tu deviens pauvre très rapidement.
C'est pire que ça. C'est une terre de richesses naturelles, de ressources premières. Puis actuellement, comme ça marche pas à fond, tout le monde qui ont migré là à des prix de fou, en se disant, hey, je vais faire la pièce, ben, c'est resté à des prix de fou, mais ils n'ont plus de job.
C'est ça.
Puis aussi, c'est dans le moto aussi en Nouvelle-Écosse, en Ontario, pour Manitoba. Puis ça montre aussi que le profil des personnes aidées, tout se diversifie avec le passé. Il y a 37 personnes, des personnes qui ont tenu de l'aide de banque alimentaire, c'est des enfants et des jeunes de moins de 18 ans, puis aussi près de 50% des ménages aidés qui sont des familles avec des enfants. Donc,
ouais, ben c'est ça. En parallèle aussi, il y avait d'autres nouvelles par rapport justement à l'alimentation, entre autres que c'est près d'un jeune ou d'une jeune québécoise sur quatre qui mange à crédit actuellement. Je sais pas, les jeunes, on entend par des personnes âgées de 18 à 29 ans.
Ah, c'est plus jeune que les conservateurs.
Oui, c'est ça.
Eux, c'est jusqu'à 45, je pense.
Puis, ouais, c'est ça. Fait que, bref, c'est un sondage qui a été fait pour la Coalition des associations de consommateurs du Québec, en fait, qui nous dit que, justement, c'est à peu près 24% des gens qui, bref, ne pourraient pas manger s'ils ne pouvaient pas utiliser le crédit. Puis ça, c'est en parallèle, dans le fond, d'une hausse de l'endettement, là, qu'on nous dit quand même intense. Là, je pense que c'est en moyenne, c'est quelque chose comme 1700 à 2000. Non, en fait, il passe de 1700. Maintenant, à 2 200 $ dans le fond, par rapport à l'année dernière. Puis, c'est ça. Mais en parallèle, ben on apprend aussi que les profits de la chaîne d'alimentation Métro ben, sont en hausse de 18,5%. Fait que...
Oui, l'explication, c'est que les gens vont moins manger au restaurant. Ouais, c'est vraiment c'est l'explication donnée dans les médias.
Ils vont moins manger au restaurant, mais ils vont plus payer avec leur carte de crédit au Métro. Fait que c'est... Et dans les autres chaînes... merveilleuse d'alimentation. Alors, c'est ça. Puis,
c'est quand même bien. Là, il y a des bonnes nouvelles là-dedans. Là, au fur et à mesure que la part de l'alimentation va grandir dans le budget des familles, la part du logement va baisser, tu sais.
Oui, c'est vrai que parallèlement comme ça, oui, effectivement. Puis éventuellement, tu sais, tant que les grandes chaînes d'alimentation vont faire des profits, éventuellement les gens vont ramasser aussi des dividendes sur leurs actions, tu sais, qu'ils auront pu acheter à très bon prix auparavant.
La crédit, enfin.
Ouais, la crédit, c'est ça.
Le système marche. On ferme la radio.
C'est merveilleux. sinon, ben, dans ce bloc-ci, juste une autre petite nouvelle. Ouais, j'ai le temps, oui. Ben, en fait, je vais en faire deux, là. C'est très rapide. Tu sais, on parle de profilage racial depuis quelques semaines, là, entre autres, en particulier à Montréal, là, avec l'affaire Villanueva. Puis là, cette semaine, on apprend que le service de police de la ville de Montréal reconnaît, dans le fond, du bout des lèvres, que ça existe. c'est malheureux. C'est ce que, en fait, là, j'ai une couple de citations là, du porte-parole. Dans le fond, il nous explique que quand on parle de profilage, on parle de stéréotypes, de filtres qui peuvent opérer. Des fois, ce sont des gestes inconscients. C'est long avant d'arriver à 100% de succès. C'est le fun qu'ils nous apprennent ça, tu sais. Puis aussi, ben, ils refusent de rejeter le blâme sur les policiers. Tu sais, c'est parce que c'est difficile pour les policiers parce qu'on leur demande d'être exemplaires. Sauf que je vous rappellerai que l'enquêteur de la Sûreté du Québec à l'origine, qui avait commencé l'enquête en fait sur l'affaire Villanueva, excusez, ben, avait dit que lui, il considérait que les policiers étaient d'emblée honnêtes. En tout cas, il y a un petit manque de cohérence ou de communication entre les services ici.
Ils n'ont pas été briefés en même place.
Non, c'est ça. Je pense que peut-être qu'il y a deux générations, là, parce que, en tout cas, il y a comme quelque chose qui cloche là-dedans, dans la cohérence, dans le fond, oui. Sur est-ce qu'on profile ou non. Là.
Puis, mais sur les cas de profilage, ça en devient débile. Je sais pas si t'en avais... Non, t'en as pas parlé la semaine dernière. T'avais parlé il y a quelques semaines là, d'un cas à Québec d'un ressortissant...
Un vénézuélien.
C'était
un latino-américain,
latino-américain, je me rappelle plus.
Essentiellement, un fonctionnaire du ministère de l'Environnement.
Mm-hmm.
Quelqu'un qui est membre du Front commun. qui avait été victime d'un cas de brutalité policière avec clairement un profilage racial.
Mm-hmm.
Récemment, c'est revenu dans l'actualité parce que le monsieur a reçu par la poste un ticket.
Ah, le fameux ticket.
Il a blessé les jointures des policiers.
Ils se tenaient sur le chemin de leur poing.
Non, c'est ça. Fait qu'il a reçu un ticket, puis c'est des choses qui progressent. Là. Tu sais, des affaires vraiment bizarres là, qui se passent là, mm-hmm. avec la police. Là.
Ouais. En tout cas. Mais bref, ce profilage-là, il ne s'étend pas juste aux forces policières, malheureusement. Il y a aussi une enquête qui nous dit que c'est les femmes immigrées qui, dans le fond, ont le plus de misère à rentrer sur le marché de l'emploi, peu importe leur qualification, en fait. Puis bien souvent, c'est surtout dépendant de leur qualification. Mettons qu'ils sont quand ils sont très qualifiés puis qu'ils arrivent au pays, dans le fond, ont plus de misère à rentrer dans des emplois qui répondent à leurs qualifications.
Ben, les femmes issues de l'immigration ne sont pas le groupe le plus scolarisé.
Non, effectivement.
Ils sont le groupe le plus scolarisé, non? C'est pas au Québec un des groupes sociaux les plus scolarisés?
Ben, c'est possible. Ben, en général, les gens qui migrent sont sélectionnés sur la base de leurs études. Donc,
c'est ce que j'avais lu.
C'est effectivement très possible, mais justement...
En France, ils sont scandalisés de l'immigration choisie de Sarkozy, puis ici, c'est intégré depuis longtemps.
Oh oui, ça fait longtemps que ça marche comme ça.
Oui, il y a juste les réfugiés qui ne sont pas choisis, puis ils s'organisent pour essayer de les filtrer tellement qu'il n'y en a pas un qui passe.
Oui, maintenant, il faut que tu demandes à partir de... Où t'es dans la merde.
C'est ça.
Ah, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de te tuer en pleine rue parce que t'es d'une minorité.
Oublie pas de demander ton passeport avant de partir.
Fais ta demande en papier, puis attends 8 à 10 semaines.
Donc, Guillaume, si on te laisse parler, tu vas nous dire quoi?
Ah, ben, c'était juste pour mentionner, dans le fond, que ça va quand même assez profondément. Je veux dire, on s'entend que si ça existe effectivement dans la police, ça existe aussi chez les employeurs, chez les autres professionnels et tout. On parle entre autres de, comme exemple dans l'article, on parlait de l'Ordre des médecins qui a des examens vraiment intenses puis donne pas vraiment beaucoup de chance aux gens qui arrivent de l'extérieur. Puis encore moins, justement, aux femmes qui sont souvent les supports à la maison des enfants et tout, alors que les hommes s'en vont sur le marché du travail rapidement et tout. Donc, puis que ça prend vraiment du temps à étudier pour ces examens-là. Fait que c'est ça. Ça fait beaucoup de combats du côté de la discrimination et...
T'es-tu en train de nous dire qu'on vivrait dans une société raciste?
En tout cas, très certainement xénophobe.
D'accord.
L'extrême droite parle de racialisme maintenant, OK? On t'aime chez vous.
sur ces belles paroles, on va s'en aller en musique et au retour, on va voir Norman Naroki qui va être à Québec jeudi et vendredi. Donc, grâce à la magie du téléphone.
Ah oui, on va entendre Los Fabulosos Cadillacs avec Revolution Rock, une reprise.
Revolution Rock, est-ce que c'est nouveau? Mal, mal, mal.
Alors, jeudi à 20h, il y a Norman Aroki qui va présenter sa pièce de théâtre solo Casarola. Sur l'anarchie, Mussolini, les Roms, l'Italie aujourd'hui, à la JT dans Saint-Roch, c'est basé sur un nouveau roman qui est encore inédit. Casarola traite de la résistance au fascisme dans l'Italie de Mussolini jusqu'au néo-fascisme d'aujourd'hui, avec entre autres l'arrivée au pouvoir de certains Berlusconi. Alors, on a la chance d'avoir Norman au bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Bon, je suis très excité parce que je voyage à Québec demain. Je vais vous voir demain.
Oui, ben en plus, le pire, c'est qu'il y a peut-être des gens qui t'entendent déjà demain. On est en rediffusion aussi le jeudi. Donc là, on se parle mercredi soir.
Oui, donc jeudi, aujourd'hui, je suis content que j'arrive aujourd'hui.
Donc, mais en fait, c'est diffusé au deux moments. Toujours est-il que jeudi soir, tu présentes une pièce de théâtre. Casarola. Parle-nous-en donc un peu. Comment t'en es venu à écrire ça? C'est quelque chose qui traite d'Italie.
Bien, parce que j'étais en Italie récemment, les deux dernières années. Un de mes livres, L'anarchiste, le diable, s'est traduit en italien et publié en italien. Et la maison d'édition m'a invité pour faire un lancement au salon de livres à Rome.
Oh boy!
Puis après ça, ils ont organisé une tournée pour moi au travers l'Italie. J'étais vraiment excité. Donc, ça fait deux ans. Et quand je suis arrivé, j'ai fait le lancement, tout était fun, tout était beau, puis j'ai remarqué, sur les nouvelles, dans des journaux, quelque chose sur les Roms. Et quelque chose comme incroyable, sensationnel, une meurtre ici, quelqu'un était tué là, un magasin était attaqué ici, le monde était battu là. Moi, j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Puis le monde me dit, on a un gros problème maintenant, il y a des fascistes qui ont décidé qu'il faut expulser tous les Roms, les peuples Roms, le monde qui vient de Roumanie aussi, de l'Italie.
Donc ça, c'est les Gitans.
Oui, les Gitans. Mais aussi le monde des étrangers qui arrivent de la Roumanie. Parce que la Roumanie, en cette année-là, a rentré dans le European Common Market,
la communauté européenne.
Exactement. Puis les Roumanies avaient le droit de déménager, d'émigrer en Italie, de vivre en Italie, de travailler en Italie. Mais l'extrême droite en Italie, qui était xénophobique au bout, a décidé, non. On ne veut pas le monde ici. Puis le gouvernement de Berlusconi a commencé une campagne de hystérie et de violence contre le monde. Et c'était une campagne qui était soulignée par l'État. L'État a dit oui, il faut faire n'importe quoi pour sortir le monde. Donc, tout le monde, il faut faire quelque chose pour protéger l'Italie. Moi, je ne reviens pas. J'ai vu les nouvelles, j'ai vu des journaux, j'ai entendu des histoires. Je suis retourné à Montréal, tout de suite après deux semaines, j'ai commencé à écrire un roman, et cependant, j'ai fait plus de recherches dans la situation des immigrants, des réfugiés roms en Italie, et j'étais comme bouleversé, comme voyons, c'est pas correct ce qui se passe là-bas, puis je suis retourné pour faire un deuxième tour, six mois plus tard, pour faire encore plus de recherches. Et donc, tout ça rentré dans le roman, dans mon roman, mais en même temps, j'ai pensé, voyons, je peux faire une petite pièce de théâtre, cependant, juste pour parler du sujet, parce que c'est assez hot, il faut que le monde sache.
Donc, comment on passe dans quel contexte tu t'es retrouvé là, de passer d'un roman à une pièce de théâtre?
Ben, c'est parce que j'avais déjà commencé à écrire les personnages pour le roman. Le roman, c'est une histoire d'une famille qui a résisté le fascisme depuis le début, mais ça a commencé même avant le début du fascisme en Italie. Donc, c'est un roman qui commence au 19e siècle. Fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et c'est l'histoire de la résistance au fascisme par des anarchistes et une famille en particulier. Et toutes les générations, c'est quoi qui est arrivé avec les générations après? Et c'est aussi une histoire de l'amour entre une mec italienne et une femme rome, gitane. Et ça, c'est une histoire de l'amour assez touchée parce que, à cause du racisme qui est si profond en Italie aujourd'hui encore.
Et donc ça a été transféré au théâtre. J'ai vu sur Internet une entrevue là, dans le cadre du Festival de théâtre anarchiste en mai dernier. Est-ce que c'était dans ce contexte-là en particulier que t'as sorti une pièce avec ça?
Bien, parce que c'était notre quatrième Festival international de théâtre anarchiste à Montréal. Et j'ai pensé, mais voyons, il faut que je partage quelque chose qui est aussi proche à moi, dans ma tête, là, vivant aussi. Et j'ai fait cette pièce de théâtre-là. Ici ici, on avait comme une salle comblée de 400 personnes parce qu'on avait des gros actes de partout, de Bread and Puppet Theater et tout ça. Et c'était un gros succès. Puis j'ai remarqué le prochain matin des nouvelles. Et cette soirée-là, quand j'ai fait mon pièce de théâtre, je n'étais pas au courant, mais le même moment que j'ai fait mon pièce de théâtre, des gangs de néo-fascistes ont attaqué les camps de réfugiés à Napoli. Ils ont chassé 800 jetins, le camp. Ils ont brûlé 400 maisons.
Ouais, donc la pièce est toujours d'actualité, même si ça fait 2 ans.
Oui, encore l'actualité. Donc pour ça, je fais la pièce.
Et dis-moi, les gens, bon, ça s'est présenté à la JT jeudi soir à 8h. Les gens, à quoi ils peuvent s'attendre? Parce qu'on t'a vu à Québec à quelques reprises faire du violon, de la musique, un peu de stand-up puis, et tout ça. Là, comment ça se présente, Casarola?
Il y a 4 personnages et ouais. La musique est préenregistrée. C'est un peu ma musique, c'est un peu la musique des amis d'Italie. Et je joue 4 personnages avec des costumes et tout ça. Puis, c'est ça. Je commence avec un caractère qui va assassiner Mussolini, qui essaie d'assassiner Mussolini, jusqu'à l'histoire de la mort entre l'Italienne et la femme Rome, je t'aime aujourd'hui.
Et c'est une pièce qui se présente en anglais, en italien, en français?
Oui, ça se présente en anglais. Et j'espère que le monde va comprendre, mais je parle assez lentement en personnage, puis... Je pense que le monde pourrait comprendre des choses. Après, je peux répondre des questions en français.
D'accord. Dis-moi, t'en profites, là, tu fais d'une pierre deux coups avec cette soirée-là à l'AJT. Tu lances aussi des livres parce que, outre là, les romans, tu commences à avoir plusieurs anthologies de poésie. Tu lances une trilogie Brain Food.
Oui,
qu'est-ce que c'est ça, Brain Food?
le titre de trilogie, chaque livre, c'est Breakfast for Anarchists, petit déjeuner pour les anarchistes, Lunch for Insurgents, le déjeuner pour les insurgents, et puis Dinner for Dissidents, le souper pour ceux qui sont dissidents. Donc, c'est une collection de ma plus récente collection livres, pleine des œuvres d'art dedans. J'avais demandé des amis qui sont des anarchistes, des artistes, de contribuer des œuvres. Des graphiques, toutes sortes de choses. Donc, chaque livre est aussi une collection d'œuvres d'art partout dans le monde.
C'est génial, ça. Si jamais les gens ne peuvent pas te pogner jeudi à 8h, il y a aussi, puisque bon, tu as décidé là, que tant qu'à venir à Québec, cette fois-ci, tu resterais pour de bon. Tu présentes aussi le lendemain, tu participes à un 5 à 7 à la page noire?
Oui. Et là, je présente une présentation audiovisuelle, l'art et l'anarchie. Et là, je vais tracer les racines de relations entre les artistes et les anarchistes depuis le 19e siècle, au moins, jusqu'à aujourd'hui. Et ça sera une présentation en français avec beaucoup d'images, 200 diapos et la musique préenregistrée aussi. Donc, ça va être une courte présentation, ça sera gratuit, comme à peu près comme 30 minutes, plus ou moins 40 minutes. La page noire, ce serait une 5 à 7 et je suis très excité avec ça.
C'est bon. Hey, dis-moi, donc si les gens veulent se pointer, c'est jeudi 8h à la JT, c'est sur Dorchester, c'est le 251 Dorchester, puis vendredi 5 à 7 à la page noire au 265 Dorchester. Juste pour terminer, est-ce que tu nous qu'est-ce qui t'attend dans les prochains mois, dans la prochaine année? Est-ce quelque chose qu'il faut surveiller?
Oui.
D'autres projets?
Je termine le roman parce que les maisons d'édition attendent pour le roman. Le roman Casarola.
Toi, t'es un hot. C'est pas toi qui cours après les maisons d'édition, c'est les maisons d'édition qui attendent que t'aies fini tes textes.
Oui, il tend pour moi. Donc, je suis un peu en retard avec le roman. En même temps aussi, je travaille sur quelqu'un a fait l'introduction de Petit Déjeuner pour les anarchistes. Donc, j'espère sortir le Petit Déjeuner pour les anarchistes en français bientôt, mettons, la nouvelle année. Je fais ça, je fais un lancement seulement à Québec.
OK.
Et après tous les romans, après le roman est terminé, je retourne aux musiques parce que j'ai trop de disques qui attendent pour moi dans ma vente, dans mes poches, partout dans la maison, les disques de musique enregistré, rough, you know, des démos, puis il faut que je sors la musique. Même plus de musique pour vous autres, parce que je sais que vous aimez la musique.
Oui, oui, on aime la musique. Hey, c'est bon, on va aller te voir jeudi. En fait, moi, je vais aller te voir vendredi. Puis on invite tout le monde à passer jeudi.
Complètement différent.
Oui, c'est pas pareil du tout. Mais ben, c'est bon, merci. T'as-tu quelque chose à rajouter avant que je passe justement en musique?
Non, mais j'ai hâte de voir tous les bons amis, les nouvelles amis de Québec chaque soir. Et le monde ne serait pas dessous.
Cool. Nous, on s'en va avec Kate Kuna, qui fait une reprise d'une pièce de Renaud. Alors, je vous laisse deviner ce que c'est sur les ondes de Sequoia à 88.3 à Québec. Kate Kuna sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Vous avez reconnu Les Béton de Renaud qui est devenu Oublie ça. Kate Kuna, ça, c'est l'ancien chanteur des Ghouls. Il serait pas l'ancien chanteur des Ghouls si les Ghouls existaient toujours, mais bon, toujours est-il que le monsieur qui est originaire de Québec, Capro, je pense, je sais plus trop. En tout cas, il va être au Sacrilège jeudi à 6h. Donc, c'est gratuit. Alors, vous pouvez commencer votre soirée au Sacrilège à 6h, aller écouter une petite heure de Kate Kuna, un show intime, et après ça, descendre à la JT pour une pièce de théâtre.
Ça va être intime pas mal. Hein?
Ouais, mais c'est pas très grand le Sacrilège.
Non. Fait que...
c'est les shows tous les jeudis à 6h. Ils font un show gratuit avec des gens comme ça, là, qui sont des étoiles montantes.
Fait qu'on prierait aux gens de se laver avant d'y aller.
Oui, c'est ça. Et puis après ça, ben, ça, vous allez aller acheter, voir la pièce de théâtre de Norman. Sur ce, on a quand même un dernier micro. Fait que je vais arrêter de déblatérer. On parle d'international avec Guillaume et Jenny.
Premièrement, c'est Yosang, il y a une nouvelle qui est sortie hier, 17 novembre. Cinq opposants au régime iranien qui ont été condamnés à mort cette semaine. Ils ont été accusés d'avoir pris part aux 20 protestations qui avaient suivi la présidentielle iranienne, puis que Mohamed Jad avait été réélu. Puis aussi, il y a eu 80 autres personnes qui ont écopé de peine de prison en allant de jusqu'à 15 ans. C'est d'abord savoir des 6 mois à 15 ans. Ces personnes-là, ils ont été reconnus coupables d'avoir eu des relations avec des groupes anti-révolutionnaires, terroristes ou d'opposition.
Des groupes anti-révolutionnaires, j'aime ça ici. Ça arriverait jamais, tu sais, groupe révolutionnaire peut-être, mais anti-révolutionnaire, c'est quelque chose.
Là, ils ont été arrêtés juste la base d'accusation de guerre contre Dieu, d'action contre la sécurité du pays, de propagande contre la République islamique, de vandalisme, de participation, de coopération, de violence contre les civils, des forces de sécurité. Il y a juste 3 autres personnes, c'est 89, qui ont été acquittées. Puis, c'est ça, dans le fond... comme les condamnés peuvent faire appel du verdict, mais c'est surprenant.
Devant le chef suprême, le guide suprême de la révolution.
Guerre contre Dieu. Je veux chef d'accusation, là, moi.
En parlant de peine de mort, ça pourrait être réintroduit en Russie 13 ans après la dernière exécution. C'est la Cour constitutionnelle qui va trancher demain. Ça, demain, là. C'est aujourd'hui, dans le fond, parce que c'est... Non, attends. L'article du 18 novembre, jeudi, dans le fond. Cette semaine, parce que la majorité de Russes, une majorité de Russes utilisent la peine capitale, mais l'établissement penche plutôt vers une abolition par étapes du châtiment suprême. Dans l'exécution, ça avait été... c'est ça. Le débat sur la peine de mort a devenu d'actualité en Russie pour une raison toute juridique. En 99, la Cour constitutionnelle avait interdit les condamnations à mort, tandis que les procès avec jury ne seraient pas instaurés dans toutes les régions de la Fédération. J'ai pas vraiment de détails dans l'article là, qui disent pourquoi ça reviendrait, mais ils disent que le président Dmitri Medvedev disait qu'il y a l'abolitionnisme, mais dans le fond, il donne pas vraiment de détails. Donc
c'est un relent réactionnaire. C'est tout.
Ça, puis en parlant de relent réactionnaire, c'est une nouvelle qui est sortie aujourd'hui, mais que les migrants médias ne parlaient pas. C'est un skinhead antifasciste qui a été assassiné par balle à Moscou. Ivan Kolostom Urtoskoy, qui a été tué par des nazis. Il a été... lui, dans le fond, c'est une des phases de proue, dans le fond, du mouvement antifasciste en Russie. Il faisait partie d'un collectif de rage, Red Anarchist Skinhead. Puis c'est un néo-nazi par derrière qui l'a tué par deux balles de revolver. Donc... on peut se dire que les coupables sont pas vraiment accusés parce que la police et les autorités ont pu l'air être d'accord avec ça.
Oui, mais là, il y a une évolution. Cette fois-ci, ça a filtré dans les médias que c'était des néo-nazis, en fait, qui ont fait l'agression. En général, c'est « il y a une agression, puis l'enquête est ouverte, on sait pas c'est qui. » Mais comme systématiquement, c'est des antifascistes qui se font buter,
Puis il avait été attaqué à de nombreuses reprises, puis ils ont fini par l'avoir, malheureusement.
Ouais.
À toi, Guillaume.
Ah, ben merci. on va y aller très rapidement. En fait, c'est juste une nouvelle, moi, que j'aurais voulu en parler la semaine dernière. Finalement, on n'avait pas eu de temps non plus. Mais juste vite comme ça, là, des pourcentages très intéressants. Si jamais vous êtes touché par la crise économique, dites-vous que les banques aussi ont été très touchées par la crise économique. Mais eux autres, ils en ont profité pour grossir, en fait. Au lieu de comme en perdre un petit peu, là, supposément qu'ils étaient dans la merde à un point tel que ça leur prenait des plans de renonce à revenir. Too big to fail. Comment?
Too big to fail.
Yes, c'est ça. Bref, aux États-Unis, les plus grandes banques, les actifs des trois plus grandes banques, ils étaient à peu près 30% du PIB avant la crise, soit en 2005. Ben, en 2008, là, ils ont dépassé les 40%. Ça, on peut se dire que c'est un pourcentage, quoi, au moins c'est en bas du 100%, mais en France, là, on parle d'environ 180% à 250% pour les mêmes années, puis au Royaume-Uni, de 200 à plus que 400%. J'ai pas vraiment de chiffres pour le Canada, mais on s'entend-tu que les banques canadiennes sont quand même assez énormes aussi, ont pas été touchées tant que ça par la crise et ont profité de plans de relance. Alors, on peut se douter que si vous vous êtes endetté encore plus, ça fait leur affaire, puis vous allez pouvoir continuer à le faire pour les aider.
Ils sont bien contents.
Ils sont bien contents, c'est ça.
Eux aussi vivent à crédit, mais avec le vote.
Ouais, c'est ça.
Dans cet ordre d'idée, il y a une petite nouvelle en une du Quack qui est en plein dans ce genre-là. C'est, on a eu chaud. Alors, le palmarès du magazine Forbes montre que les riches ont souffert de la crise. Heureusement, l'appauvrissement du reste de la population a permis de conserver intact le fossé entre les deux.
Ouf! Ouais, une chance qu'on a gardé cette zone tampon-là.
Ouais.
C'est malade.
Hey, si vous manquez de nouvelles durant la semaine... Ah non, il en reste encore une. Hein?
Ouais, mais non, il m'en reste pas une, mais j'ai rechecké mon article sur Cyberpresse que quand je parlais dans toute la peine capitale pour être traduit en Russie. C'est qu'il y a un moratoire présentement sur la peine de mort. Le gros conseiller russe doit décider s'il prolonge le moratoire, ça efface définitivement le changement du code criminel ou si ça permet à nouveau les condamnations ou les exécutions.
D'accord. On va suivre ce dossier cette semaine. Il nous reste plus rien. Hein?
Non. Je me lance un défi en onde de mettre toutes les playlists. Je l'ai toutes en note depuis le début de la saison.
Sur notre blog.
Oh oui.
Voix de fait avec un X et un S.blogspot.com. Si vous voulez voir Norman Naroki, on va mettre une entrevue avec lui sur sa pièce. Entrevue vidéo pour aussi voir des vidéos de manifestations et tout et tout. Ainsi que des articles. Tout plein d'articles, la rediffusion, etc. Et alors, venez nous voir sur le web et sinon, continuez d'écouter ces Cahiers toute la semaine.
C'est fini. On vous dit à la semaine prochaine.